J'invite Luc Charpentier, Marie-Laure Desgardia, François Pilet, Pascal Mocaer, le docteur Michel Zan ou Zan, vous me direz, Mathieu Savouriot et Anne-Sophie Pernel à venir s'installer sur l'un des fauteuils. Donc il s'agit bien du docteur Michel Zan. Voilà. On m'a donné l'information. Donc installez-vous comme vous le souhaitez. Alors, c'est à vous surtout que je vais demander la plus grande rigueur dans l'expression, puisque on a effectivement une heure pour sept intervenants, et il faut impérativement que les uns et les autres vous alliez évidemment à l'essentiel. Alors comme je ne vous connais pas obligatoirement, merci de me faire un petit signe pour me dire qui vous êtes. Donc je vais vous présenter au fur et à mesure. Hein. Je ne peux pas lire d'ici, moi j'ai un problème ophtalmologique. Luc Charpentier, directeur départemental de la PJJ des Bouches-du-Rhône. C'est vous, monsieur, avec les lunettes et la moustache. Ça, je les vois. Il n'y a pas de problème. À vos côtés, je suis désolé, je le connais parce qu'il est venu se présenter. Donc François Pilet, qui est administrateur et référent école à l'UNAFAM. Marie-Laure Desgardia, elle est à ma droite, ici, qui s'est présentée aussi, qui est directrice, présidente du GEPSO. On vous dira de quoi il s'agit dans un instant. Pascal Mocaer, c'est vous, directrice de l'EPS Roger Prévost. Le docteur Michel Zan, c'est donc vous, qui est pédopsychiatre, présidente de la CME-EPS de l'EPS Roger Prévost. Donc vous vous connaissez, alors, logiquement. Donc tout va bien. Mathieu Savouriot est chef du service territorial de l'ASE des Hauts-de-Seine. Et puis enfin Anne-Sophie Pernel, donc il ne reste plus que vous, donc c'est vous, obligatoirement, et pédopsychiatre à Angers, et elle est membre du syndicat des psychiatres hospitaliers, le SPH, c'est ça ? Voilà, très bien. Bon, avec vous, donc, on va essayer de, d'aborder cette question la plus largement possible, d'avoir une vue d'ensemble. Moi, je suis allé voir dans la mission Moreau un peu ce qu'on disait justement sur ces partenariats souhaités, possibles. Et Madame Moreau nous parle de nouvelles solidarités territoriales qu'elle appelle de ses voeux. Elle met d'abord le rectorat, l'ARS et les maisons départementales des adolescents en premier rang. En deuxième rang, l'établissement scolaire, les parents et les professionnels de santé. Puis enfin, en troisième rang, les acteurs publics et associatifs. Alors je sais pas, c'est peut-être moi qui interprète sur les rangs, hein, mais je l'ai vu énoncé comme ça en tout cas. Périscolaire, évidemment, prévention spécialisée, protection de l'enfance. Et elle insiste sur le fait qu'il est probable que les départements aient un rôle majeur à jouer dans ce domaine. Oui, c'est pas idéal hein, pour celui qui a un torticolis, en tout cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir avec les uns et les autres qui vous êtes et de quelle manière vous abordez ces questions de territorialité et de partenariat, avec qui vous travaillez, de quelle manière vous travaillez, pour quels résultats, bien évidemment, et puis peut-être que vous avez les uns et les autres des expériences intéressantes à partager. On va commencer. Est-ce qu'on vous a donné un micro ? Non. Alors je m'en occupe. Ils sont... Donc on va commencer à droite avec, par exemple, la présidente du GEPSO, Marie-Laure Desgardia. Alors Madame Desgardia, deux mots d'abord sur ce qu'est le GEPSO. Ce sont des établissements médico-sociaux, hein, c'est ça, public.
Oui, en fait, c'est le groupement national des établissements publics, sociaux et médico-sociaux. Donc on existe dans... Vous m'entendez ? Parce que moi, je ne m'entends pas bien.
Oui, on entend.
On existe dans tous les départements. Ça couvre l'ensemble des territoires. Et on couvre aussi tous les établissements du champ de la protection de l'enfance et du handicap. Des personnes âgées, mais avec une très forte représentativité des établissements de l'enfance, hein, à travers l'établissement du handicap et de la protection de l'enfance.
Alors c'est peut-être intéressant de commencer par vous, parce que ce matin, on a beaucoup, malgré tout, parlé de sanitaire et de médical. Donc une petite ouverture. On ira ensuite vers... l'UNAFAM et puis peut-être la PJJ pour revenir, et puis l'ASE bien sûr pour revenir à des acteurs plus classiques, j'allais dire, dans le cadre de nos échanges. Alors le GEPSO, quel est le regard du médico-social sur cette thématique de l'enfance et de l'adolescence ?
Alors d'abord c'est important de dire que, je finis pour dire que au conseil d'administration du GEPSO, on a déjà tenté les liens entre sanitaire et médico-social, puisqu'on intègre au conseil d'administration déjà des directeurs d'établissements sanitaires, même si la grande majorité, ce sont les établissements sociaux et médico-sociaux. La volonté aujourd'hui pour les établissements sociaux et médico-sociaux, c'est de se dire, effectivement, on appelle de nos voeux, nous aussi, la collaboration et la coopération avec les établissements sanitaires, puisque c'est tous les jours qu'on constate de plus en plus une augmentation des profils de jeunes accueillis et d'enfants présentant des troubles relevant du handicap, mais aussi du soin, mais aussi de la rupture familiale. Et donc cette collaboration, aujourd'hui, ce que par ma présence ici parmi vous, c'est vraiment la volonté de se dire, passons de la volonté à la concrétisation.
Il existe... La concrétisation, elle existe déjà d'une certaine manière. Il y a eu un certain nombre d'expérimentations ou d'expériences, tout simplement. Hein. Alors, vous m'évoquiez, je crois, l'existence d'un réseau santé pour des ados difficiles.
Alors, bien sûr qu'elle existe dans beaucoup de territoires. Moi, j'ai la chance d'habiter, de travailler dans un territoire qui est les Pyrénées-Orientales, dans lequel on a depuis longtemps un réseau. Moi, j'étais présidente pendant longtemps du réseau de santé pour adolescents difficiles, où effectivement, on a aujourd'hui, je pense, une maturité de travail dans la collaboration qui nous permet même de penser ensemble la clinique de ces adolescents. Et quand je dis la clinique, qui est un terme qui n'est pas un terme médico-social, c'est bien pour montrer qu'on peut, dans certains territoires déjà, penser ensemble la prise en charge globale de ces adolescents en rupture.
De quelle manière les choses se faisaient sur ce réseau ?
Alors en fait, le réseau, il permet, il regroupe, c'est une association qui regroupe l'ensemble des... acteurs du sanitaire, les deux centres hospitaliers, l'éducation nationale, la PJJ, la protection de l'enfance et les établissements du médico-social. Donc avec deux missions principales, une mission qui est très très concrète avec ce qu'on appelle un comité technique qui étudie des situations de profils d'adolescents très complexes amenées par l'ensemble des partenaires et qui construisent des projets de prise en charge globale qui permettent d'articuler l'ensemble des acteurs, donc avec des adolescents qui se retrouvent dans le cadre de leur parcours à voir les acteurs s'articuler autour de la prise en charge sociale, familiale, sanitaire et médico-sociale. Donc avec des vrais projets qui s'inscrivent dans le temps et dans une logique de parcours. Ça fonctionne bien. Après, il y a voilà. Et puis une autre mission qui est une mission plus de réflexion sur les dispositifs. Et le fait que ce soit sous une forme associative, ça permet une collaboration peut-être moins sectorielle ou moins marquée en tout cas par les secteurs. Mais il y a encore beaucoup de... Donc moi, j'ai cette chance-là et je le vis au jour le jour, donc je sais que c'est possible. Il y a aussi beaucoup de secteurs, et quand je parle là en mon nom, je parle surtout en nom de tous les établissements, les 250 du GEPSO, qui me disent souvent, mais c'est pas comme ça partout.
Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a du...
Je suis obligée de dire que c'est pas comme ça partout.
Il y a du scepticisme ?
Oui, je dirais peut-être aussi de la méfiance. Hein, je dirais jusqu'à la méfiance pour certains de mes collègues hein, qui disent, oui, tu nous dis que ça marche, Mais concrètement, est-ce que par où on passe d'abord, comment on fait, parce qu'effectivement c'est un travail de longue haleine, mais aussi qui souhaitent qu'on travaille aussi sur les représentations parce qu'ils ont le sentiment que parfois.
On va venir aux solutions dans un instant. Pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est de faire un peu un état des lieux en quelque sorte. Donc je disais que je me proposais d'interviewer François Pilet. Vous êtes Monsieur Pilet. Retraité de l'éducation nationale, on peut le dire dès le départ ?
Mais on peut le dire. Hein, moi, j'ai pas honte.
Bon, voilà.
A priori.
Sachant qu'il n'y a personne de l'éducation nationale ici sur cette table ronde, mais vous pourrez peut-être faire part de vos...
impressions personnelles.
D'une part, et puis peut-être des expériences que vous avez pu vivre. Alors, l'UNAFAM, vous rappelez de quoi il s'agit ?
Bon, peut-être. Alors, je vais vous faire grâce peut-être de la présentation de l'UNAFAM. En revanche...
En un mot.
En revanche, peut-être annoncer que l'UNAFAM... s'est ouverte, nous sommes en rénovation de projets associatifs, et l'UNAFAM s'est ouverte à la problématique de l'accueil des parents de jeunes enfants et de jeunes adolescents, ce qui est pour nous quelque chose de nouveau. Et nous considérons que nous n'avons pas le choix de choisir les territoires ou pas. Je voudrais simplement... On m'a recommandé de réveiller l'assistance en début d'après-midi. Donc je vais vous donner quelques chiffres qui me semblent sortir de ce que nous avons entendu ce matin. Si on prend le problème national, vous avez entendu ce matin, vous vous souvenez de Staline qui disait « Le pape, combien de divisions ?» Alors, d'un côté, nous avons la santé des jeunes, 28 professeurs, si j'ai bien entendu, de pédopsychiatrie, pas tout à fait 1000 médecins scolaires, à peine 5000 infirmières, d'un côté. De l'autre, 1 200 000 personnels. Et je me suis réjoui qu'on se proposait de les former. 1 200 000. Et 12 millions d'élèves. 12 millions d'élèves. Donc si on prend le problème dans ce sens-là, de toute façon, ce n'est pas avec nos petits bras et nos petites pioches qu'on va y arriver. Donc il faut forcément passer par les collaborations locales, les collaborations de territoire. Et nous avons un certain nombre d'opérations très modestes, avec peut-être quand même des motifs d'espoir. Et il y a un mot que je n'ai pas entendu ce matin, que j'ai regretté de ne pas avoir entendu, c'est le mot déstigmatisation. Vous connaissez cette sorte de spirale infernale qui fait que, au sein de l'école, plus un élève se montre un peu particulier, plus il est stigmatisé. Plus il est stigmatisé, plus il est rejeté et plus il est malade. Donc nous avons, avec beaucoup de plaisir, vu le développement, et ça je crois que c'est quelque chose qui est très positif, de la scolarisation en milieu ordinaire. Aujourd'hui, 300 000 jeunes sont scolarisés en milieu ordinaire, et leur présence dans des contextes, entre guillemets, ordinaires, permet non seulement de faire connaître leurs troubles et de montrer que, ma foi, ce n'est pas des gens forcément infréquentables, et que ce faisant, non seulement ils ne nuisent pas à la qualité de l'enseignement et à l'ambiance d'un établissement. Moi, je suis très frappé, comme vous l'avez dit, je suis retraité. Il y a 10 ou 15 ans, quand on vous proposait d'ouvrir une classe de ce type, on faisait un petit peu la grimace. Aujourd'hui, non seulement on ne fait pas la grimace, parce que c'est quelque chose qui s'est complètement banalisé, mais quelquefois, on les recherche parce que la présence de ces jeunes différents au sein du milieu ordinaire, change la donne et permet souvent, je repense à ce qui a été dit ce matin sur le bien-être pour tous fait le bien-être de chacun finalement, la présence de ces jeunes, eh bien, non seulement n'est pas un obstacle, mais contribue à ce que les ambiances des établissements soient moins stigmatisantes et moins dures.
Moi, j'imagine que ça ne doit pas être si simple et si idyllique que ce que vous décrivez, malgré tout, l'implantation de ce type de structure.
Non, mais j'essaye d'indiquer un sentiment général. Alors, c'est vrai que, globalement, les choses ont progressé. Il reste que, et c'est vrai qu'en tant que représentant des familles, plus le nombre d'élèves important est intégré, plus ceux qui restent sont en difficulté. Et c'est vrai que nous avons ouvert des permanences en direction de ces parents et que l'on se trouve aujourd'hui en face de parents qui sont absolument sans solution et qui, faute sans doute de structures collaboratives et de réseaux, se retrouvent dans un désarroi absolument total.
Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces partenariats dont il est question et que tout le monde appelle de ses voeux depuis ce matin, on l'a entendu.
Eh ben moi, je pense qu'on n'a pas le choix. De toute façon, c'est là que les choses se jouent, c'est là que les choses se décident et c'est là que, véritablement, on peut gagner la partie. Parce qu'encore une fois, si on se place sur un plan national, on n'a strictement aucune chance.
Et vous, en tant qu'UNAFAM, vous arrivez à faire passer vos messages. Alors, je sais que vous êtes dans la commission EduSCOL, je crois.
Oui, je suis représentant au CNCPH dans la commission EduSCOL, mais nous menons un certain nombre d'opérations. Encore une fois, c'est ridicule, rapporté à l'ensemble, mais nous menons un certain nombre d'opérations, notamment en direction des rectorats, et aussi, alors je le dis simplement, c'est rien du tout, mais c'est quelque chose qui me semble extrêmement intéressant, en collaboration avec les mairies, en direction des écoles primaires, des petits modules où des professionnels de santé et des professeurs, avec des petits modules d'une heure, posent les questions de la normalité et s'efforcent d'entrer dans une politique de déstigmatisation, justement.
Alors vous revenez régulièrement sur le partenariat scolaire, ça veut dire que c'est le seul qui compte, les autres non? Ou je sais pas, avec le médico-social, etc., c'est important aussi?
Oui, absolument. Moi, je parle de ce que
oui,
j'ai
vécu, ce
que j'ai
connu. Voilà, hein. Oui, c'est vrai. Je comprends. À vos côtés, Luc Charpentier, qui est directeur départemental de la PJJ des Bouches-du-Rhône. Alors, vous, dites-moi, moi, en tant que béotien, j'allais dire, vous êtes les plus récents arrivés dans le jeu, là, ou pas?
Ah, c'est pas faute de demande, mais en tout cas, oui, effectivement, on est assez souvent maintenant autour des tables, et je vous remercie d'ailleurs de m'y inviter. Vous êtes assez coutumier avec les 10, et nous, on est plutôt sur les dés, hein, les dés scolarisés, les dés familialisés, les dés socialisés, les dés tenus aussi, d'ailleurs, puisqu'on est revenu en prison. Donc, voilà, nous, on s'occupe de ceux qui, aujourd'hui, sont, a priori, les moins appréciés de notre société. C'est les jeunes qui sont en parcours de délinquance, qui risquent, bien sûr, de devenir des délinquants, mais qui risquent aussi de devenir des parents. Donc, a priori, nous, on choisit plutôt la deuxième solution, c'est-à-dire de les aider à en faire des futurs parents responsables. Alors, quelles sont nos missions ? C'est éduquer, c'est-à-dire continuer à accompagner ces jeunes dans le changement par rapport à un cours des choses qui semblent tracées. C'est évaluer, parce que les magistrats ont besoin d'être de temps en temps informés, insérer et, bien sûr, de prévenir la récidive, parce que quand on a commis un acte, on n'est pas forcément délinquant, même si c'est un participe présent. Quels sont nos publics ? Ben, nos publics, c'est les mal vus, les mal vécus, les mal aimés, les mal appris, les mal élevés, quelquefois les mal aimables, d'ailleurs. En tout cas, les peu entourés, peu compris et peu soutenus. Nos missions, nos moyens, d'abord, peut-être, c'est bien sûr, j'ai dit, sur les publics, donc qui présentent un certain nombre de troubles, hein, il y a eu un certain nombre d'études, il y a eu l'étude de Marie Choquet et l'INSERM, il y a l'étude de Guillaume Bronsard, il y a un certain nombre d'études qui ont montré que quand même il y avait des prévalences sur les troubles mentaux qui étaient largement supérieures à la population générale. Et donc c'était sans doute des révélateurs d'un certain nombre de dysfonctionnements initiaux. Mais en tout cas, on avait à prendre en charge des jeunes qui ne présentaient pas des comportements tout à fait classiques et donc qui cumulent des troubles de développement, des troubles d'attachement, des troubles du comportement. Enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Vous êtes plus au fait de ces questions-là que moi.
Justement, ça fait peut-être partie des questions. Ce matin, il a été question de former les professionnels qui œuvraient autour des jeunes concernés par ces problèmes de psychiatrie. Est-ce que vous, à la PJJ, les uns et les autres, ou l'ensemble du personnel, a une formation spécifique ?
Alors, il y a des formations en termes de formation initiale, mais qui sont quand même plutôt des approches. Par contre, ce qu'on fait, et notamment on a mis en place depuis une bonne douzaine d'années, on l'a nous depuis 11 ans sur Marseille, c'est le DU ou le DIU, suivant les facultés, où justement on essaye de faire partager un certain nombre de concepts et un certain nombre de réflexions à des travailleurs d'origines diverses, éducation nationale, psychiatrie bien sûr, magistrats, policiers et éducateurs, pour qu'on puisse parler de temps en temps un langage commun. Donc ça participe quand même de la prise en compte, justement, que ces spécificités, elles ne sont pas seulement que de la socialité.
Alors, puisque vous parlez de langage commun, parlons de partenariat. Aujourd'hui, avec qui travaillez-vous ?
Alors, avec qui on travaille ? Avec tous ceux qui veulent bien. On travaille inévitablement avec l'éducation nationale parce que assez régulièrement, on récupère les exclus du système scolaire et qu'on essaie de reconstruire un peu des parcours. On essaie de les réapprivoiser avec des démarches d'apprentissage, de leur réapprendre à s'asseoir autour d'une table, autour d'un thème et de rester correct dans l'échange. On travaille avec la psychiatrie parce qu'on a besoin de temps en temps d'avoir des moments de dégagement, des moments aussi d'expertise, des moments d'évaluation, des moments d'instruction, parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas forcément à même de comprendre du fait des comportements qui ne sont pas toujours très normalisés ou normés.
Et de quelle manière vous travaillez avec la psychiatrie ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est conflictuel ? Est-ce que c'est... La réalité.
Alors la réalité, elle s'améliore tous les jours.
Bon, ça c'est une bonne chose, bravo. Restons positifs.
Je suis arrivé il y a 15 ans dans le Pas-de-Calais, j'ai trouvé un document qui était à destination des hôpitaux psychiatriques et autres en disant attention à l'ASE et à la PJJ. Et donc j'avais dit on va essayer de travailler d'une autre manière parce que si on commence comme ça, on ne va pas y arriver. Donc là-bas, j'avais eu l'occasion de faire un certain nombre de choses. Et puis on en parlera tout à l'heure, enfin d'autres en parleront tout à l'heure. Hein. On a mis en place en 2009 le comité départemental ado, qui essaye justement de prendre en compte et d'éviter qu'on soit dans un système de patate chaude, qu'on se renvoie assez régulièrement en disant « c'est pas de ma compétence, c'est de la tienne ». Nous, on a des ressources. Et c'est ça que je voudrais surtout dire, c'est qu'on a des capacités d'avoir des lieux de placement contraints, plus ou moins contraints, des plus libres. On est en capacité d'intervenir le jour, on est en capacité d'intervenir la nuit, on est en capacité d'intervenir la semaine, on est en capacité d'intervenir les week-ends. Ça veut dire que quand on a besoin d'une ressource extérieure, et notamment celle de la psychiatrie, elle est en général assez brève, on est là pour récupérer. Et on est là pour continuer à travailler ensemble et pas pour se les passer de manière à se dégager d'une situation. Au contraire, on est là pour essayer d'accompagner. Aujourd'hui, notre mot d'ordre, c'est d'organiser la cohérence des parcours. Les jeunes savent rien mieux de faire que de nous mettre en échec. Et nous, on veut leur éviter cette réussite-là, c'est-à-dire que leur permettre de dire « c'est pas toi qui vas décider, c'est nous qui allons décider parce que c'est le monde adulte qui va t'accompagner pour devenir un jour un vrai adulte ». Et pour le coup, on a besoin de temps en temps de passage par une institution ou par une autre, d'un soutien par une institution ou par une autre. En tout cas, nous, notre volonté, c'est de continuer à conserver la vue et l'accompagnement de ce jeune.
Bon, présentation générale, merci. Mathieu Savouriot, alors donc vous êtes les autres, hein, prenez le micro qui est à côté de vous, s'il vous plaît. Ceux qu'on ne voulait pas recevoir dans le Pas-de-Calais, donc à la PJJ, a priori. Alors vous êtes de l'ASE des Hauts-de-Seine, hein, c'est ça. Et alors pourquoi, d'après vous, la PJJ ne voulait pas vous voir ? Enfin, vous ne voulez pas voir les services de l'ASE, on est bien d'accord.
Non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, j'ai dit, c'est la psychiatrie qui avait exclu l'ASE et la PJJ.
Ah non, c'est la psychiatrie, pardon, j'avais pas compris.
Si on les prend, on les garde. C'était ça l'idée. Dès lors qu'ils nous les passent, on les conserve.
C'était en hospitalisation.
Oui.
C'était les unités d'hospitalisation.
Pardon ?
Oui.
Donc, oui, d'accord. Alors, donc vous étiez bien pratique, en fait. C'est ça que ça veut dire, inversement. Bon, alors, quel est le regard de l'ASE sur cette manière d'aborder les problèmes donc, de psychiatrie des mineurs ?
Non, juste pour vous dire, oui, le milieu psychiatrique, c'est comme pour vous. Hein, j'imagine que l'aide sociale en France, c'est un milieu peut-être un petit peu obscur. C'est que la difficulté qu'on peut avoir au niveau des services de l'aide sociale en France, c'est peut-être une méconnaissance de la structuration un petit peu et de l'organisation de la psychiatrie en France. C'est que nous, dans les Hauts-de-Seine, on a fait le choix, contrairement à d'autres départements, d'avoir des psychologues qui sont rattachés donc directement aux équipes de l'aide sociale en France, à savoir que moi j'interviens dans le nord du département des Hauts-de-Seine avec 55 agents, travailleurs sociaux et autres, et 4 psychologues, donc, ce qui est quand même assez important et ce qui permet aussi de faire des liens avec les différents partenaires justement sur des jeunes qui peuvent souffrir de problèmes psychiatriques et d'être l'interface un petit peu technique, parce que je vous avoue humblement, oui, je ne connais pas forcément tout ce champ-là et puis... Chacun doit rester aussi à sa place. Donc, le choix qui a été fait par le département des Hauts-de-Seine, c'était dans le cadre du schéma départemental de protection de l'enfance 2012-2016, c'était d'axer et de mettre une des priorités dans l'articulation des liens entre les services de pédopsychiatrie du département et les services du département. Donc, ça se met petit à petit en place. Je ne dis pas qu'auparavant, ce n'était pas le cas, mais là, on structure un petit peu les formalismes et les articulations entre les différents acteurs. Et l'objectif, c'est d'optimiser un petit peu les réponses des différents acteurs, parce qu'on est tous acteurs auprès des jeunes, et qu'on puisse favoriser un petit peu une continuité du parcours. C'est ce qui est rappelé aussi dans la loi de 2007 de protection de l'enfance. Donc, pour exemple, il y a eu un partenariat qui s'est instauré avec un hôpital qui se trouve à Colombes, donc Colombes, le nord des Hauts-de-Seine, donc c'est qui intervient plus spécifiquement pour les territoires du nord Hauts-de-Seine. Et je ne dirais pas la même chose du sud des Hauts-de-Seine. J'étais avant sur Anthony qui se trouve sur le sud des Hauts-de-Seine et c'était compliqué d'avoir accès justement au milieu pédopsychiatrique et d'avoir des articulations de qualité, qu'on ne se renvoie pas un petit peu, comme vous disiez tout à l'heure, un petit peu la patate chaude, hein, désolé pour l'expression, et les situations qu'on peut appeler vulgairement au niveau de l'aide sociale en France, les incasables. Voilà. Donc là, pour le coup, ce qui s'est mis en place au niveau de cet hôpital, c'est donc, pour exemple, une équipe mobile qui permet en fait à des psychiatres, éducateurs, infirmiers, donc il y a 3 ETP sur cette équipe mobile, si je ne me trompe pas, de se déplacer dans les lieux de vie. Donc l'intérêt, c'est qu'il y a des déplacements au domicile des enfants dans le cadre de la protection de l'enfance, mais également dans les lieux de vie. Des enfants, donc établissement aide sociale en France ou famille d'accueil. Et ça permet donc une coordination de l'ensemble des soins, des relais avec l'intersecteur, mais également ça peut permettre aussi de pallier. Vous savez que dans la protection de l'enfance, s'il y a placement en urgence, on peut être amené à faire accueillir les jeunes dans des services d'accueil d'urgence. Service d'accueil d'urgence dit 3 voire 6 mois de prise en charge dans un établissement pour travailler l'orientation sur famille d'accueil, établissement spécifique, mais quid justement la nécessité de soins pendant ce temps-là. et l'équipe mobile peut répondre de manière temporaire et faire le lien, dans le cas de cet accueil un petit peu court, où le CMP n'aura pas forcément la réactivité pour pouvoir le prendre en charge, donc intervenir auprès de ce jeune pour ensuite faire le lien avec le CMP du secteur où sera accueilli le jeune. Donc ça, c'est vraiment un intérêt qu'on a pu trouver depuis quelques années par les liens qu'on a pu mettre en place avec l'hôpital de Mourier. Il y a également une unité d'hospitalisation qui a été créée et donc qui permet des hospitalisations de 3 semaines à 3 mois pour les phases aiguës et les hospitalisations qui ont été programmées. Et ça permet aussi, on a eu beaucoup de travail d'échange avec ce partenaire-là pour travailler aussi la question des informations préoccupantes. Notamment, un exemple il n'y a pas moins d'une semaine, c'était donc l'hôpital qui a pu nous faire une information préoccupante, à savoir que la demande qui était faite par dans le cadre de cette information préoccupante, c'était d'évaluer le lien de l'enfant avec la famille, bien sûr, enfin, avec ses parents, et voir s'il était possible de travailler au niveau de l'aide sociale à l'enfance un accueil extérieur, donc famille d'accueil ou établissement, donc avec la compétence des professionnels de la protection de l'enfance, pour observer un petit peu la problématique, enfin, comment se comporterait le jeune en dehors du milieu hospitalier et dans une unité familiale ou une unité d'établissement aide sociale à l'enfance. Donc des liens se créent. Donc moi j'ai nommé donc un travailleur social et l'avantage donc le psychologue du service, un des psychologues du service de l'aide sociale à l'enfance pour travailler de concert avec l'hôpital sur cette question de mise en place d'un accueil, si oui accueil judiciaire ou pas. Et qui dit accueil judiciaire dit refus des parents, donc on ne peut pas mettre en place un accueil provisoire. Donc oui, pour rappeler, accueil provisoire, on est dans le cadre administratif, donc les parents donnent leur accord pour un accueil de leur enfant à l'aide sociale à l'enfance. Si les parents ne sont pas d'accord, mais que c'est dans l'intérêt de l'enfant qu'il soit accueilli à l'aide sociale en France, on fait appel au procureur de la République, au magistrat, donc on rentre dans le cadre judiciaire. Donc là, le travail de l'aide sociale en France, c'est voir et travailler donc, un lieu d'accueil pour cet enfant, travailler avec les parents sur si on reste dans un champ administratif ou judiciaire, et travailler aussi, et ça c'est important de le rappeler, la loi l'a rappelé, le travail avec la fratrie éventuelle de cet enfant, à savoir quelles sont les répercussions aussi de la problématique de ce jeune par rapport aux membres de sa fratrie.
Bon, et ça fonctionne ?
Ça fonctionne. Là, c'est que l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des interlocuteurs privilégiés, un numéro de téléphone, une réactivité très importante de cette unité mobile. Alors, ça s'appelle l'Astrolabe pour ceux qui connaissent. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, de manière générale, au niveau de l'aide sociale à l'enfance, c'est quand il y a crise aiguë d'un jeune, pouvoir enclencher, en lien avec les partenaires que vous êtes, des hospitalisations éventuellement dans l'urgence. On nous parle souvent de crise clastique, donc j'imagine que la crise clastique, c'est quand il y a une forte crise où justement on ne peut pas forcément hospitaliser tout de suite, et on passe d'abord aux urgences avant de passer au niveau de cette unité. On a aussi mis en place au niveau du département des Hauts-de-Seine, mais suite à la loi aussi qui l'a réaffirmé en 2016, donc un médecin référent protection de l'enfance qui permet de faire l'interface aussi dans le cas des informations préoccupantes et des signalements entre les médecins que vous êtes et puis les professionnels de la protection de l'enfance. Donc ce médecin a un arrêté particulier et rattaché à la direction famille enfance jeunesse du département et permettra justement d'améliorer ses articulations.
On va arrêter la liste là, parce qu'on y reviendra peut-être dans la discussion tout à l'heure. Juste un mot, vous représentez la zone des Hauts-de-Seine. J'imagine que vous avez des échanges avec vos collègues des autres départements. Est-ce qu'il y a un mouvement de fond qui va dans ce sens-là, ou pas ?
Alors, il y a un mouvement de fond, parce que la loi de 2007 a bien rappelé le rôle de chef de file protection de l'enfance du président du département. Après, clairement, manque de moyens, enfin voilà, il y a aussi manque de disponibilité quelquefois par rapport à tout ça. Là, on travaille aussi avec la maison des adolescents du 92.
Manque de moyens, de disponibilité, enfin de possibilité.
En termes de temps.
Mais manque de volonté politique aussi quelquefois ou pas ?
Pas manque de volonté politique, je dirais, par rapport au département des Hauts-de-Seine. Après.
Non, mais dans les autres départements.
Dans les autres départements, je ne saurais vous dire. J'ai travaillé dans un autre département. Il y avait tout un travail qui était mis en place par rapport à ça. Les schémas départementaux, je pense que si on fait la liste des schémas départementaux de chaque département au niveau national, met une priorité aussi dans le cadre de son schéma sur cette question-là de l'articulation avec la PJJ, la pédopsychiatrie et autres. Après, là, ça se construit au fur et à mesure. Et en fait, on est en train de formaliser des choses qui se faisaient peut-être auparavant, mais justement, éviter des ruptures de parcours et que... Il y a une instance maintenant qui est rattachée donc, à la maison des adolescents. On a décentré les choses et non pas que ce soit le département qui pilote cette instance-là, qui est représentée par la PJJ, l'aide sociale à l'enfance, le milieu pédopsychiatrique, les associations de milieu ouvert pour justement se dire le qui fait quoi.
Ça fait beaucoup de monde tout ça, hein. Ça va être compliqué de gérer l'ensemble. On va voir justement avec les autres comment ça peut se passer. Alors vous êtes deux représentantes de Roger Prévost, donc c'est que ça doit être sacrément intéressant ce qui s'y passe. Alors vous avez peut-être emmené effectivement un diaporama, mais merci de faire le plus rapidement possible votre présentation générale pour qu'on aille après dans l'échange. Donc je rappelle Pascale Mocaer qui est directrice de l'EPS et docteur Michel Zahn qui est pédopsychiatre et président de la CME. Je vous laisse vous exprimer pour présenter ce que vous faites dans le Nord 92, donc.
Oui, on peut démarrer par là. Donc,
mettez le voilà. Micro bien près
on
de vous.
On présente donc là, du coup, la pédopsychiatrie sanitaire. Et on pourra rebondir sur votre présentation parce que finalement, ce projet territorial de psychiatrie de l'adolescence du Nord des Hauts-de-Seine, on va peut-être, c'est un bon exemple de projet de pédopsychiatrie de l'adolescent qui s'est construit vraiment à partir d'un travail partenarial très ancien dans le Nord des Hauts-de-Seine. Alors peut-être que, du coup, comme vous venez d'en parler, on peut peut-être commencer par ça et puis on... c'est peut-être bon.
Par la présentation peut-être du
territoire. Oui, allez-y pour le territoire et puis je...
Alors, démontez pas les micros.
Non, le défi de respecter le matériel. Donc, alors, ça tombe bien, on est dans le Nord des Hauts-de-Seine également. Donc, l'hôpital Roger Prévost, c'est un établissement spécialisé en psychiatrie qui a la responsabilité d'organiser l'offre de soins en psychiatrie de 5 secteurs adultes et puis d'un secteur en pédopsychiatrie. Donc, vous voyez sur la carte, sur l'illustration, la mosaïque des établissements, des secteurs, des intersecteurs de pédopsychiatrie dans le Nord des Hauts-de-Seine. Donc l'hôpital Roger Prévost, c'est l'établissement qui s'occupe plus particulièrement de la boucle Nord des Hauts-de-Seine avec les communes de Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers, Asnières, Levallois-Perret et Clichy concernant la pédopsychiatrie. Peut-être que du coup, on rebondira plus précisément sur d'autres éléments qui ont été évoqués jusqu'à présent, mais on a, donc avec l'ensemble des partenaires et notamment aussi hospitaliers dont un certain nombre sont présents dans la salle et pourront peut-être compléter les éléments après, on a commencé à réfléchir de nouveau encore dans le cadre d'un territoire à ce que pourraient être les questions d'organisation de l'offre de soins, de la continuité des soins, de l'accès aux soins ces derniers mois avec peut-être deux temps qu'on peut identifier sur les 18 derniers mois, un premier temps où on a, avec d'autres établissements, mais notamment des établissements qui gèrent des secteurs adultes dans le Nord des Hauts-de-Seine, travaillé sur ce que pourrait être un projet de psychiatrie du Nord du département, donc avec des étapes très transitoires. Hein, c'est une avancée uniquement, c'est une étape. On n'en est qu'à la psychiatrie, on n'est pas sur le projet de santé mentale encore du Nord des Hauts-de-Seine, c'est encore un autre échange. Et donc avec l'hôpital Louis Mourier, avec le CACHT Nanterre, avec l'établissement de santé mentale de la MGEN à Rueil-Malmaison, on a travaillé sur cette question. Donc, parmi les projets qu'on a identifiés, on a identifié un projet qui concerne à la fois les grands adolescents et les jeunes adultes, avec un souci d'identifier un parcours coordonné pour ces grands adolescents et jeunes adultes, pour travailler sur le passage des adolescents prise en charge pédopsie et prise en charge adulte, avec deux axes. D'une part, travailler à l'identification d'un parcours coordonné pour des accueils spécifiques en hôpital de jour, dans les hôpitaux de jour existants dans les secteurs du Nord des Hauts-de-Seine. Et puis d'autre part, la question toujours difficile de l'accès à l'hospitalisation à temps complet pour cette population dans le département, malgré les dispositifs existants. Et puis, on avait eu d'autres réflexions un petit peu antérieurement avec les autres établissements qui gèrent des intersecteurs en pédopsie dans le département, donc avec l'hôpital Louis-Mourier pour les adolescents, avec le Montesson, l'hôpital Théophile-Roussel, et puis avec l'hôpital Erasme. On avait eu des réflexions en commun parce que, déjà, on avait un constat. Le premier constat, c'est qu'on a des partenaires communs, que ce soit l'ASE, que ce soit l'Éducation nationale, que ce soit la PJJ, sur le département, on a des partenaires communs. Et puis surtout, ce sont les éléments qu'en particulier évoquait Michel Zahn à l'instant. Il y a une histoire commune sur les années, et puis des constructions communes, et puis des complémentarités dans l'offre de soins. D'où les réflexions sur quel dispositif sur le territoire pour répondre à...
Alors ça, ce sont des réflexions, mais concrètement, est-ce que vous avez commencé à mettre en place le projet ?
Alors, on peut donner des exemples. On va peut-être passer les diapos.
On va aller rapidement, si ça ne vous dérange pas, parce
que
le temps passe.
Oui. Mm-hmm. Mais moi, je voulais quand même donner un peu la philosophie de l'affaire, parce que c'est important, outre les exemples, et on va y venir. Je pense que, un peu par provocation, on pourrait presque dire que si la psychiatrie générale a inventé le secteur, la pédopsychiatrie a presque inventé le territoire. Pourquoi ? Parce que, très vite, hein, si on parcourt l'histoire de la pédopsychiatrie, qui part de l'asile à la création de l'intersecteur dans les années 70, quand les CMP ont ouvert, quand les intersecteurs de pédopsychiatrie ont ouvert, ils couvraient l'équivalent d'un territoire de 4 services adultes. Ils attendaient le client, hein, à l'époque. Hein. Les familles, les enfants ne venaient pas dans les CMP. Hein. Et dans beaucoup de secteurs, et le Nord des Hauts-de-Seine en est un bon exemple, les professionnels de la pédopsie ont dû sortir des CMP pour aller rencontrer les interlocuteurs des enfants et des familles, à savoir les partenaires. Et il y a eu un mouvement très riche à ce moment-là, où un partenariat s'est développé. Je pourrais citer dans le 92 tout un partenariat avec la PJJ, notamment Théophile Roussel. Il y a eu un partenariat avec les écoles, un partenariat avec la PMI. On a un bon exemple depuis 20 ans dans notre service avec une unité parent-bébé d'accueil conjoint, mère-bébé, père-bébé, donc PMI, pédopsychiatrie, hein, avec donc comme objectif l'aide à la parentalité, le repérage des troubles précoces, la formation mutuelle des professionnels. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, maintenant, avec, je ne répéterai pas tout ce qu'on s'est dit ce matin sur l'état, la situation de la pédopsychiatrie, ses difficultés de moyens, mais aussi les difficultés de l'ensemble des partenaires, dont beaucoup à qui on demande de se replier sur leur mission propre. Donc nous sommes tous en difficulté. Et actuellement, cet accueil qui était moderne, hein, dans le sens qu'on évoque, eh bien, on n'a plus de représentants de la PMI. On n'a plus qu'un médecin de PMI en retraite qui vient bénévolement. Alors, comme autre exemple de partenariat sur le Nord des Hauts-de-Seine, ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent du partenariat de terrain. Par exemple, on a créé, là, depuis plusieurs années, on travaille sur un réseau autisme, à partir des liens qui s'étaient créés entre le sanitaire et le médico-social et le manque de moyens flagrants, évidemment, pour prendre en charge les enfants autistes. Donc, des rencontres se sont formalisées, des formations communes se sont formalisées, l'idée étant de se former mutuellement, de pouvoir offrir aux familles, aux enfants, des projets cohérents en matière d'autisme, et ce n'était pas souvent le cas, on avait chacun des discours parfois contraires et les familles ne s'y retrouvaient pas, de promouvoir des projets aussi pertinents pour le territoire. Et c'est comme ça qu'a été promu un CESAD, et actuellement, il y a une plateforme autisme qui va être créée avec la participation et l'implication du réseau autisme. Et puis en matière d'adolescence, ça doit être la suivante, elle est là, voilà. Alors c'est aussi très, et je finirai par ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, au Nord des Hauts-de-Seine, c'est très intéressant parce qu'il y a depuis fort longtemps un réseau très très riche, un peu non coordonné certes, mais très riche de partenariats locaux, mais avec des manques criants, pas de lit d'hospitalisation dans le 92 et pas de lien entre la pédopsie et la psy adulte, ça c'est un grand classique. Or, depuis 25 ans, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont préfiguré la suite finalement. On a l'UATA, je ne peux en citer quelques-unes, hein. L'UATA qui est une structure ambulatoire qui est sur le nord des Hauts-de-Seine, sur le 92-01, qui a travaillé depuis 20 ans avec l'ensemble des partenaires pour favoriser l'accès aux soins des adolescents, mais qui a mis en préalable à son travail l'accueil et le travail avec les partenaires pour faire des équipes communes potentielles pour accompagner les situations sur la durée, pas dans des fonctions uniquement expertales et de se renvoyer les situations. Bon, je ne reviendrai pas sur la collaboration PJJ, pédopsie que Théophile Roussel connaît bien et qui était très riche avec des accueils aussi, là aussi partagés. Et puis les difficultés, on a soins culture, c'est un accueil, ça existe depuis 2000, un accueil interpartenarial où étaient représentées la pédopsie, l'éducation nationale, la PJJ, l'ASE au départ, pour des adolescents en rupture, donc adressés directement par les collèges des adolescents en rupture. Eh bien, au fil des difficultés de nos partenaires, alors pour le moment, nous, on résiste encore si on a encore des subventions, mais l'éducation nationale n'a pas pu envoyer de professionnels. La PJJ, ben, au moment des changements aussi d'orientation, n'est plus présente. Donc on a toujours, certes, des conventions, mais on n'a plus la réelle, le réel travail en commun, les regards croisés, enfin tout ce qui fait la richesse de ce travail. Donc la diapo suivante.
Et puis on va terminer là sur la présentation.
Donc du coup, tout ça, vers quoi vont plus déboucher ces partenariats de terrain? Sur la création d'une MDA tout à fait originale, puisque bon, comme on n'avait pas beaucoup de sous et qu'on ne pouvait pas créer une vraie MDA, mais qu'on avait un réseau très riche, on a fait une MDA interpartenariale, réseau de réseau, et avec les difficultés inhérentes, mais qui commence à mettre en place un certain nombre de choses, d'où les commissions autour de cas complexes qui existent maintenant au sud, au milieu et maintenant au nord du département. Et puis l'autre projet, ça a été, vous en avez parlé, ça a été de créer une unité d'hospitalisation. C'est un projet qui est porté depuis, qui a été porté 10 ans par les intersecteurs de pédopsychiatrie. Finalement, ça s'est fait à Louis-Mourier, mais c'est un projet qui a été fait pour compléter l'existant et l'ensemble des dispositifs que nous avions déjà, donc en complète collaboration avec l'ensemble de tous les dispositifs, non seulement au niveau pédopsie, mais aussi avec une convention avec l'éducation nationale, et vous parlez aussi des liens avec vous et de la coordination interpartenariale.
On voit que vous avez l'habitude, effectivement, de partenariats divers et variés.
Voilà. Et pour que tout ça ne soit pas une succession d'actions, et puis ou une rivalité qui plus est, parce qu'on voit que ça devient ça, avec les moyens qui diminuent, finalement, les partenaires, on peut se retrouver plus en rivalité qu'en réelle complémentarité.
Vous écrivez même que ça peut vous paraître de temps en temps virtuel, hein, et il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas.
Quand c'est fait comme ça, c'est pas virtuel, parce que c'est incarné par les professionnels de terrain. Mais quand il y a des appels d'offres qui descendent, bon, et parfois c'est très bien d'avoir des moyens, ça peut être en effet des constructions un petit peu artificielles, virtuelles.
Appels d'offres qui permettent d'obtenir des budgets, c'est ça.
Qui permettent d'obtenir des budgets, certes, mais il est important que ça prenne sa place dans le dispositif. Voilà, je mentionnerai l'accueil généraliste maintenant qui est obligatoire pour toutes les maisons des adolescents. Et ben, peut-être que c'est bien pour certaines maisons des adolescents, mais finalement, nous, on a un département où on a beaucoup d'accueil généraliste. Peut-être qu'on aurait besoin d'autre chose. Mais les dispositifs sont très fléchés et il est difficile d'en sortir.
On aura l'occasion de développer les maisons des adolescents dans une prochaine rencontre. Et puis on a quand même une intervenante qui n'est pas intervenue, ce qui est embêtant pour une intervenante en l'occurrence. C'est Anne-Sophie Pernel, donc médecin pédopsychiatre à Angers. Je rappelle que vous représentez le syndicat des psychiatres hospitaliers. Comment voit-il ce syndicat justement cette manière d'aborder les problèmes de pédopsychiatrie par le partenariat? Oui, il faut parler fort, c'est tout.
D'accord. Le syndicat, donc, qui a toujours eu à cœur de définir un peu...
Vous entendez mal, hein. Faut le mettre devant vous, le micro, vraiment. Voilà. À moins que vous n'ayez pas appuyé sur le bouton, enfin, ce qui est possible.
Comme ça marche mieux.
C'est mieux. Ouais.
Donc le syndicat a participé à la contribution sénatoriale dont on parlait tout à l'heure. On a notamment réfléchi à la question du partenariat. On se dit que finalement, avant de réfléchir à comment on s'articule, c'est important de redéfinir qu'est-ce que c'est que la pédopsychiatrie de secteur, qu'est-ce que c'est que la pédopsychiatrie publique. Parce qu'on a parlé plusieurs fois qu'il y avait énormément de demandes aujourd'hui, et tant mieux que les gens se rendent compte que les bébés, que les enfants, aidés, depuis qu'ils sont bébés, voire fœtus, peuvent souffrir. Après, on ne peut pas répondre à toutes les demandes, sinon c'est les fameuses listes d'attente qui ne font vraiment pas la fierté de la pédopsychiatrie, et qui ne permettent pas d'être là où on doit être rapidement, en urgence et dans des choses très, très concrètes. Donc, dans la pédopsychiatrie, c'est quoi ? C'est les pédopsychiatres, des médecins donc, qui sont formés aux somatiques, qui ensuite se forment à la psychiatrie, donc tout ce qui est les troubles psychiques graves, le fonctionnement du psychisme. Après, on se forme en pédopsychiatrie au développement de l'enfant. Tous ces troubles, et pas que un type de trouble, ça c'est important, pour faire des diagnostics différentiels entre, par exemple, des troubles du spectre autistique ou des enfants négligés, bah, c'est important de connaître tout le développement normal et tous les troubles des enfants. Et puis après, quand on est pédopsychiatre, c'est important aussi de se sensibiliser particulièrement aux âges qu'on va rencontrer, parce qu'en effet, c'est pas pareil de voir un bébé et de se demander si ce bébé de 6 semaines est en souffrance que de rencontrer un adolescent en crise. Donc une fois qu'on... Donc ça, c'est le pédopsychiatre dans le service de pédopsychiatrie. Après, il ne travaille pas du tout seul. Il y a toute l'équipe que vous connaissez et qui apporte donc les psychomotes, les orthophonistes, les infirmiers, les éducs, les psychologues, etc., qui apportent vraiment un regard très pointu tant sur la question de l'évaluation de l'enfant que après dans la prise en charge. Donc on est un plateau technique important, et la question c'est du coup quels sont les enfants qui ont besoin de ce plateau technique-là. On ne peut pas voir tout le monde, on ne peut pas faire des psychothérapies pendant 10 ans d'enfants qui souffrent d'avoir des parents séparés, par exemple, et puis laisser pendant 9 mois un enfant de 3 ans en attente de savoir s'il présente un trouble du spectre autistique ou pas. Donc on a vraiment pris le temps de réfléchir et de mettre sur ce papier sur la contribution sénatoriale ce qui nous semblait à prioriser dans les fonctions de la pédopsychiatrie publique. Ce qu'on se dit, c'est que, par exemple, le parcours diagnostique, c'est notre objet. On ne peut pas dire qu'on ne fait pas de diagnostic des troubles du spectre autistique, par exemple, parce que ça prendrait trop de temps. Donc tout ce qui est parcours diagnostique en équipe pluriprofessionnelle pour faire les diagnostics différentiels et pour observer l'enfant sous différentes... à la croisée de plusieurs champs. Il y a le champ médical en lien avec les pédiatres. Il y a le champ de l'environnement, le relationnel, tout ce que vivent les enfants. Le champ social qui est prépondérant, etc. C'est pour ça, je voulais insister là-dessus. Je pense que c'est très important de le dire, parce que c'est vrai, parce que stratégiquement, ça va être important pour ne pas mourir, que nous sommes les spécialistes du neurodéveloppement. Aujourd'hui, on dit neurodéveloppement, et quand on dit ça, bah, y a neuro, et du coup, on voudrait dire que c'est surtout pas les psychiatres. Et aujourd'hui, donc, du coup, du côté de l'IGAS et de la Cour des comptes, ils sont en train de dire qu'il faut créer un institut du neurodéveloppement. C'est une manière encore de mettre les pédopsychiatres loin. Alors que le neurodéveloppement, c'est quoi ? C'est tous les facteurs biologiques, génétiques, environnementaux, et l'environnement, bah, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on respire, c'est aussi le bain relationnel dans lequel on vit, c'est notre histoire de vie. Donc qui fait la croisée de tout ça, c'est bien les pédopsychiatres en lien avec les pédiatres.
Monsieur Pilet, vous voulez réagir
oui,
à un nouveau propos ?
Je vais rebondir sur le mot la croisée des chemins. Ce qui nous paraît absolument essentiel pour l'usager ou les familles d'usagers, l'idéal, c'est le guichet unique. Hein, parce que tout ça, c'est extraordinairement compliqué. Est-ce que, quand je suis une famille non avertie, vers qui je me tourne, vers qui je vais ? Et je crois que ça serait injuste d'oublier de citer, dans le cadre des partenariats, alors là, pour le coup, des partenariats institutionnels, les établissements soins-études, hein, qui sont l'exemple même d'une collaboration de deux grosses administrations et qui permettent d'accueillir hein, des jeunes, à la fois sur le plan scolaire et sur le plan médical. Et quand on dit médical, c'est pas seulement forcément la santé mentale, c'est aussi la santé tout court. Et la Fondation Santé des étudiants de France a ouvert à Paris, et je trouve ça absolument exemplaire, un centre au quartier latin où c'est précisément le guichet unique, où on prend en compte tout ce que vous venez de dire, madame, c'est-à-dire l'aspect social, l'aspect scolarité, l'aspect santé, le planning familial, la santé mentale. Et ça, c'est vers ça qu'il faut... Enfin, je crois qu'on est...
Qu'est-ce qu'il porte ? J'ai pas compris. Qui le portait ?
La Fondation Santé des étudiants de France. D'accord. Il y a des représentants qui étaient assis derrière moi. L'UNAFAM en est partenaire.
Donc, il faut une initiative privée pour que ça puisse naître, alors, si je comprends bien.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a le prototype, on a le prototype du guichet unique, c'est-à-dire c'est pour l'usager, pour la famille, c'est absolument idéal. Et je crois que c'est vers ça qu'il faut tendre, de telle façon à ce que le fait de se soigner ou le fait de s'éduquer ne soit pas réservé forcément aux gens, et on revient sur un vieux thème, hein, qui connaissent le système, qui connaissent les filières. À partir du moment où j'ai un guichet unique, hein, on est sorti d'affaire.
Madame Pernel.
Oui, pour reprendre sur continuer sur nos missions.
Rapidement.
Oui, alors rapidement, parce que ça a vraiment en lien avec le partenariat, parce que pour savoir comment on travaille ensemble, il faut savoir qui fait quoi et qui est à même de, voilà, à quoi on répond et à quoi d'autres doivent répondre et comment on répond. Donc le parcours diagnostique, après on élabore le projet de prise en charge, qui n'est pas que le projet de soins, donc le lien avec la famille, la guidance parentale, le coaching parental par exemple dans l'autisme, les liens avec les écoles, les établissements, mettre en place, interpeller les services sociaux quand on voit qu'on est devant un enfant, par exemple maltraité, négligé. Donc voilà, donc penser au projet de soins, coordonner ce projet de soins, orienter, parce que quand par exemple l'enfant, on sait qu'il est autiste, les choses se sont posées, c'est important de savoir faire le relais vers le médico-social. On se dit qu'on ne sait pas assez faire le relais, qu'il n'y a pas de raison qu'on suive les enfants pendant 10 ans en pédopsie alors qu'ils sont aussi en médico-social, même si on doit rester présent, continuer à pouvoir voir les familles s'il y a une crise, s'il y a besoin d'un certificat, etc. Répondre à la demande des établissements en cas de besoin, mais pas faire des parcours alors qu'il y en a plein qui attendent sans aucune prise en charge. Donc voilà, je pense que j'ai oublié à moitié, mais c'est pas grave. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait vraiment pouvoir repenser les besoins. Il faudrait faire une étude, en fait, c'était une des propositions, une étude d'analyse des besoins des partenaires à l'égard de la pédopsychiatrie en respectant ce que chacun est. Donc c'est pas à nous de décider où l'enfant doit être placé, etc. Et c'est pas non plus le partenaire de dire qu'il doit être hospitalisé. Voilà.
Et ça va être le nœud du problème, j'allais dire. Effectivement, qui est-ce qui décide et de quelle manière on oriente
Chacun de son pôle de compétences, et en fait, en mettant ça en commun, sans être dans des rivalités, mais en vraiment en se ciblant sur le besoin des usagers, c'est tout à fait possible et ça se fait.
Je vous propose de laisser le micro à votre voisine, puisque tout à l'heure, elle était partie, ou en tout cas, je sais qu'elle a un certain nombre d'idées à développer sur la manière, dans le médico-social en tout cas, d'être efficace pour la pédopsychiatrie.
Oui, juste pour finir, pour compléter ce qui a été dit, je ne sais pas si c'est une question de relais ou de passage de quelque chose, de savoir qui décide. C'est effectivement comment on arrive à changer la manière de faire pour faire ensemble. Hein, c'est peut-être des mots un petit peu galvaudés, ensemble, partagés, mais finalement c'est oui. Quand même ça, c'est pas la question du passage de relais, c'est vraiment la question du ensemble, que ce soit dans l'analyse du diagnostic avec l'ensemble des professionnels et des métiers, que ce soit dans la construction du projet, que ce soit dans la continuité du projet et dans le parcours. Voilà. Alors après, vous posiez la question des outils, hein, de comment, sur quel support. Je pense qu'effectivement on a beaucoup parlé des plans territoriaux de santé mentale. Moi, je pense qu'il ne faut pas en inventer d'autres. Celui-là, il est plutôt bien si effectivement, il part du diagnostic partagé et des attentes de l'ensemble des professionnels et des usagers. En tout cas, puisque là, je ne suis pas là en tant que directrice de protection de l'enfance ou ancienne directrice d'hôpital, mais comme présidente du GEPSO. Donc j'essaie de rester dans mon rôle. Mais pour le GEPSO, ce qui est important, c'est que dans toutes ces réflexions globales, hein, sur les orientations des politiques, il y a les professionnels, il y a les partenaires, mais il y a aussi les personnes accueillies. Et pour le GESO, c'est très important de penser que c'est à partir de l'analyse des attentes et des besoins par les personnes accueillies elles-mêmes qu'on arrive à construire des dispositifs qui soient vraiment viables. Le deuxième élément, c'est de ne pas oublier qu'à côté, c'est toujours pareil, c'est une question de partage et de mise en commun, à côté des plans locaux territoriaux de santé mentale, il y a les schémas des solidarités. Hein. Mon collègue vient de l'ASE, il vient des départements. La structure de l'ASE, c'est une structure partenariat départementale, même si aujourd'hui, on a un conseil national de la protection de l'enfance qui tend à l'harmonisation des pratiques. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Mais en tout cas, pour l'instant, on est au niveau des départements. Et je pense que là, il y a vraiment des liens à faire. Alors là encore, on a une chance en Pyrénées-Orientales, c'est que on est arrivé dans une temporalité parfaite entre le schéma des solidarités et la réflexion sur le plan territorial de santé mentale. Ben, je peux vous dire que c'est extrêmement efficace. Alors, voilà, c'est efficace. Alors après, on a passé 6 mois à aller soit à l'hôpital de santé mentale, soit dans les locaux du département pour dire les mêmes choses. Mais ça avait du sens de dire les mêmes choses dans les deux endroits différents pour se retrouver aujourd'hui avec deux schémas qui posent des orientations communes, chacun décliné, évidemment, dans son champ de compétences. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant, en partant, d'ailleurs, de la participation des usagers et de l'attente des usagers. Donc, pour moi, les outils, ils existent. À nous aussi de les mettre en commun. Hein, c'est extrêmement important. Et puis, comme je sais que j'aurai pas la parole après, je vais finir sur ce qui me paraissait important de dire. C'est J'entends tout à fait, et c'est vraiment le vécu qu'on peut avoir dans beaucoup de nos établissements, c'est qu'effectivement, c'est à partir des expérimentations de terrain, des innovations, de la reconnaissance de nos impuissances réciproques. Je crois qu'on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas reconnu qu'on était impuissant seul. Déjà, quand on part de là, on se dit, comme on ne sait pas faire, on va se le dire. Et quand on se les dit, on commence à progresser et à expérimenter sur le terrain et à innover sur des situations. Alors, quand on a effectivement des cas complexes, que ce soit dans le cadre de la réponse accompagnée pour tous ou que ce soit dans le cadre de la protection de l'enfance ou de la santé mentale, on a une grande force de créativité et on invente des choses très intéressantes. Après, même si les conventions, parfois, sont vides de sens, je pense qu'on ne peut pas ne pas passer par la question de la formalisation des dispositifs, la formalisation de ce qu'on fait par le biais de conventions ou de tout autre outil. En tout cas, dans le champ du médico-social, c'est parfois difficile d'arriver à signer des conventions qui formalisent nos partenariats.
C'est embêtant si elles sont vides de sens, quand même, les conventions, mais bon.
Pardon ?
Si vous dites que ça, c'est le cas de temps en temps.
Non, parce que madame disait, je le comprends, c'est-à-dire que des fois, on part du terrain, on conventionne, et puis quelques années après, eh bien, on se retrouve avec, non, par demande de moyens ou par perte de...
Je veux dire,
de...
quand on conventionne un peu trop vite...
Voilà, parfois,
sans s'appuyer sur le... Sans que ça soit nourri par un projet...
Sans que ce soit, ça s'inscrit dans le terrain. Voilà, c'est voilà. Et des fois, même, ça s'est inscrit, puis ça ne s'inscrit plus, et il y a toujours la convention. C'est dans ce sens.
Mais... Ce que je vous propose pour terminer les uns les autres, c'est de nous dire un peu, puisque vous aviez réfléchi, évidemment, avant de monter sur cette scène, quel est pour vous, ou quels sont pour vous les axes impératifs à développer en termes, je sais pas, d'action, d'organisation partenariale autour de votre de vos expériences professionnelles d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas rater, etc. On va commencer avec Monsieur Charpentier, par exemple. Vous êtes venu ici en vous disant, je vais leur dire ça. Obligatoirement. Et on pourrait faire ça. Et non ?
Non, mais là, vous en avez pour l'après-midi.
Vous avez une minute et demie.
Non, mais moi, je pense qu'il y a des choses qui ont été dans l'expérimentation et pas évaluées. Je pense notamment aux ISEMA. Je pense notamment au centre éducatif fermé qui a un moment été renforcé santé mentale, pour lequel on n'a pas regardé comment ça pouvait produire un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a un certain nombre de convergences ou de lieux dans lesquels on peut prendre ensemble en charge, et pas forcément toujours dans des lieux de placement et d'hébergement. Ça peut aussi être dans des structures tout à fait ouvertes. On a une UHSA, on a une USIA, on a un certain nombre de structures qui se mettent en place, qui démarrent, dans lesquelles je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas y mettre quelques moyens, par exemple. Donc je veux dire, c'est pas seulement une demande, c'est aussi une offre. C'est-à-dire que je considère que si j'y ai de l'intérêt, il peut y avoir de l'intérêt à ce que j'y apporte ma ressource. Donc voilà, moi, mon idée, c'est de dire on doit pouvoir construire des choses novatrices. Et c'est pas parce qu'on est en période de pénurie qu'on n'a pas le droit à l'intelligence. Au contraire, je pense qu'on a encore plus de nécessité et devoir d'imagination et qu'on peut arriver à trouver des structures tout à fait novatrices.
Et vos collègues pensent comme vous ? Parce que ça, sinon, je pense qu'ils vont recevoir beaucoup de courriers la semaine prochaine de la part des directeurs. Ben,
je pense que la dernière note de la direction sur l'adaptabilité nous invite à trouver des solutions qui ne soient pas manichéennes avec du placement ou de la liberté ou du milieu ouvert et de l'enfermement, mais qu'on arrive à trouver des solutions, et notamment dans le cadre de placement séquentiel, dans le cadre de prise en charge concomitante et non pas parallèle et surtout pas successive.
Monsieur Pilet ?
Je reviens sur ce que je disais sur ce fameux guichet unique.
C'est le plus important.
Et j'ai commencé sur une note que vous avez trouvée optimiste, peut-être quand même terminer sur quelque chose de plus grave, c'est le témoignage et la défense de tous ces familles qui ont leur gamin chez eux, qui n'ont pas de solution. Hein, et que peut-on faire, ne serait-ce que pour leur apporter soutien, écoute, au moins, à défaut de pouvoir leur proposer des solutions. Depuis que nous avons ouvert nos lignes et notre réflexion à ces familles de jeunes enfants et d'adolescents, on a constamment des gens qui ont tout fait bien. Ils ont tout fait bien. Ils ont été dans tous les différents guichets qui, en l'occurrence, ne sont pas réunis. Ils ont tout fait et ils se retrouvent avec un gamin à la maison dont ils ne savent que faire.
Madame Mocquer.
On a, enfin, dans les constats, c'est qu'on n'a aujourd'hui pas le choix. De toute façon, il nous faut absolument des dispositifs complémentaires entre l'ensemble des partenaires. On n'a pas le choix également sur les éléments. C'est ce que disait monsieur tout à l'heure. On doit forcément agir avec l'ensemble des partenaires dans un cadre de dispositifs pluridisciplinaires, pluriprofessionnels, pour la continuité des soins, pour gérer les situations de complexité des parcours, qui sont celles aussi qui nous mobilisent beaucoup. Et puis également pour pouvoir... Dans le cadre, dans les contraintes actuelles, pouvoir redéployer autant que possible un certain nombre de forces, ou en tout cas mettre les moyens là où ils sont le plus utiles. Peut-être dans certains cas de mettre en place, et puis les plateformes ou guichets uniques ou d'évaluation globale se mettent en place dans un certain nombre de thématiques. Celle-là est sûrement extrêmement importante, et aussi pour gérer le plus possible la question du délai ou du temps de réponse ou qui fait partie des difficultés auxquelles on est confronté en permanence.
Docteur Zahn.
Je ne sais pas, on a déjà dit beaucoup de choses.
Très bien.
J'aurais envie simplement de revenir sur la question de la pédopsychiatrie. Parce que pour tout projet, tout partenariat, il y a une disponibilité nécessaire. Et donc, je crois qu'il faut vraiment s'attaquer à cette question-là. Je crois qu'on a besoin de la pédopsychiatrie pour coordonner aussi. Elle aura une place particulière dans ce partenariat. Actuellement, le travail de partenariat n'est pas si valorisé que ça dans nos activités. Hein ? Or, pour bien travailler, il faudrait qu'on y passe un temps... on y passe déjà du temps, mais donc il n'est pas du tout valorisé. Donc, je pense que l'urgence, c'est d'arriver à pérenniser... cette spécificité médicale, parce que si elle est trop en danger, je pense que bon, c'est vrai pour tous nos partenaires. On ne fait de bons partenariats que si chaque partenaire est assez sécurisé dans ses missions.
Alors, au-delà
dans sa identité.
Mais merci.
Bon, là, on a beaucoup parlé de pédopsie, je pense que c'est.
Alors, au-delà de ça, docteur Pernel.
Oui, juste redire que les liens, ils sont inhérents au travail en pédopsychiatrie, parce que comme disait Winnicott, un enfant seul, ça n'existe pas. Donc si on est là tous ensemble, c'est qu'on ne peut pas s'occuper bien d'un enfant si on n'est pas en lien avec sa famille, l'école et tous les gens qui s'en occupent autour. Que ça nécessite, alors qu'on a tous des manques de moyens, de ne pas justement reporter notre impuissance sur l'autre dans des moments de tension où on n'avance pas. Et donc d'entendre que l'autre ne réponde pas à la demande telle qu'on l'a fait nous, parce qu'on n'est pas l'autre. Et qu'on pense différemment, de places différentes, et peut-être créer ensemble des choses plus qui optimisent, parce qu'on a, par exemple, un ado en crise, c'est peut-être pas en mettant à l'hôpital et où il va rester 6 mois qu'il faut l'aider, mais peut-être nous, il faut qu'on reçoive plus vite les partenaires pour pouvoir penser les choses ensemble. Enfin, il y a plein de choses à créer.
Il y a du pain sur la planche, hein, d'après ce que je crois voir. Hein. Bon. Alors, vous ne voulez plus vous exprimer, c'est fini. Non, Madame de Garda, c'est bon. C'est bon, puisque vous avez dit que vous partiez tout à l'heure. Bon, excusez-moi, Monsieur Savorio.
Quand on parle de partenariat, c'est que je pense qu'il faut développer aussi la connaissance des partenaires, le qui fait quoi et les champs de compétences des uns et des autres. C'est que la loi 2007 a rappelé l'obligation pour chaque cas de protection de l'enfance de suivre une formation. Et c'est que dans notre parcours de formation à Angers, il y a une semaine notamment prévue justement sur le champ un petit peu de la pédopsychiatrie et l'intervention d'un psychiatre sur la semaine. Donc c'est des choses qui se construisent. Les partenariats permettront justement de redéfinir le qui fait quoi et les liens qu'on peut avoir les uns les autres. Et je pense que c'est à partir de ça qu'il y aura une meilleure connaissance et peut-être pas se dire, lui relève plus de l'ASE, de la PJJ, sans forcément connaître non plus les champs d'intervention des uns et des autres. Et voilà. Et comme je vous disais au début, c'est que j'interviens aujourd'hui sans moi-même connaître forcément les cadres d'intervention. Je vois beaucoup de sigles, comme à l'ASE, hein, comme à la PJJ, CATTP, tout ça. C'est une méconnaissance de notre part. Donc je pense qu'il y a des choses à développer aussi en termes de partenariat. Et puis. De formation continue.
Deux mots, Madame de Gardia.
On dit connais-toi toi-même, et ben là, peut-être qu'il faut connaître les autres, alors, passer par les actions de formation.
Très belle conclusion. Très, très belle conclusion. On vous applaudit tous et toutes. Merci.